Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes à vos côtés, nous sommes ensemble pour deux heures d'actu avec à mes côtés Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Julien.
Et à la une donc, un témoignage très fort. Dans un quart d'heure, vous entendrez notre invitée de 18h15. Elle s'appelle Olga Baranova. C'est une chef de service de la maternité bombardée de Mariupol en Ukraine. Elle s'est réfugiée chez son fils en France. Elle nous a reçus cet après-midi et elle se sent terriblement impuissante.
Dans l'actualité également, Kiev qui se prépare à l'assaut des forces russes. Un couvre-feu va bientôt débuter dans la capitale ukrainienne. À nouveau bombardée, nous serons sur place. Elle avait défié Vladimir Poutine en direct à la télévision russe. La journaliste finalement condamnée à une simple amende. Mais attention, ça n'est sans doute pas terminé. Et puis deux dépôts de pétrole bloqués en Bretagne aujourd'hui pour dénoncer la hausse des prix du carburant.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL s'interrogera. Qui peut recevoir la quatrième dose de vaccin et est-elle indispensable? Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous de la longévité de Karim Benzema, devenu meilleur buteur tout simplement de l'histoire du foot français. 18h40, on va défaire le monde. Les 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signé, toute la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Programme s'il vous plaît.
Ce soir, on va vous raconter le voyage d'une goutte de pétrole des entrailles de la terre au réservoir de votre Picasso, Julien. Importation, raffinage et grosse dépendance, vous comprendrez tout. Au menu également le blues de Jean Lassalle et le prix de la Tour Eiffel.
19h15, on va débattre, on va affûter nos arguments et refaire le monde autour d'Éric Brunet, puis des points météo tout au long de l'émission avec Peggy Broche, bien entendu. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Douceur printanière pour tout le monde demain.
À tout de suite.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier.
Alexandre de Saint-Aignan.
Et dans une heure, le début d'un couvre-feu à Kiev qui doit durer jusqu'à jeudi matin.
35 heures de couvre-feu alors que la capitale ukrainienne vit un moment dangereux, difficile selon son maire Vitali Klitschko. Plusieurs immeubles ont encore été bombardés aujourd'hui. Émilie Beaujard, vous êtes l'envoyée spéciale de RTL à Kiev. Les habitants se préparent.
Oui, dès l'annonce du couvre-feu, Emila est sortie avec son mari pour faire des courses et elle n'est pas la seule. En quelques minutes, les files sont impressionnantes, mais Emila garde le sourire.
We need to buy something, some food.
On a besoin de quelques provisions, du pain, peut-être du lait et du chocolat pour garder le moral. On prendra ce qu'on peut en fonction de ce qui reste. Ici, il n'y a plus de viande ou de poisson, mais il y a encore des choses.
Même si certaines étagères sont vide, la capitale est encore ravitaillée par les routes qui arrivent du sud. Olena fait aussi attention à ne pas trop acheter pour ne pas trop dépenser. Cette jeune femme a décidé de rester à Kiev malgré les risques.
Je ne veux pas être une réfugiée encore une fois. J'ai déjà fui des combats à l'est de l'Ukraine en 2014. Ici, j'ai acheté un appartement et je ne vois pas où je pourrais encore fuir. Je ne veux pas encore être déracinée dans mon propre pays.
Emila et Olena se pressent pour faire leurs courses. Pas question de rester trop longtemps dehors. En face du supermarché, la queue s'allonge aussi à la station-service. Certains ont décidé de quitter la ville.
Le reportage de l'envoyé spécial de RTL à Kiev, Émilie Beaujard. Deuxième journaliste américain tué par balle en deux jours en Ukraine. Un caméraman de Fox News a été tué près de Kiev tout à l'heure. Le véhicule dans lequel il se trouvait a été pris pour cible. Un autre journaliste américain qui l'accompagnait a été blessé. Il est actuellement hospitalisé.
Les images ont fait le tour de la planète. La journaliste russe rebelle qui a défié Vladimir Poutine, finalement libérée par la justice.
Un geste rarissime, hein, cet employé de la première chaîne de télévision russe a fait irruption sur le plateau du journal en direct avec une pancarte pour dénoncer l'offensive de l'armée russe en Ukraine.
Elle a été immédiatement interpellée, puis face au juge, elle a comparu et elle écope finalement d'une simple amende pour l'instant, Thomas Proutot.
Oui, Marina Ovsianikova vient tout juste de sortir du tribunal administratif de Moscou, où elle a été jugée dès cet après-midi. Veste de tailleur blanche sur haut noir, la journaliste russe est apparue les traits tirés. Elle écope pour l'instant d'une amende de 30 000 roubles, soit environ 200 euros. Voici ses premiers mots devant la presse.
Je tiens à remercier tout le monde, mes amis, mes collègues pour leur soutien. C'est difficile, je suis fatiguée parce que je n'ai pas dormi depuis deux jours. L'interrogatoire a duré 14 heures et je n'ai pas eu le droit d'être assistée d'un avocat. Je m'expliquerai plus longuement demain.
Précision importante, l'employé de Pervé Canal, la première chaîne de télé russe, n'a pas encore été jugé pour son apparition avec un panneau anti-guerre en plein journal télévisé, mais pour la vidéo enregistrée avant son action militante où elle explique son geste et appelle les Russes à manifester. Pour cela, elle a écopé donc d'une simple amende, mais ses avocats redoutent de nouvelles poursuites criminelles, cette fois pour dénigrement de l'armée et une peine de prison à la clé. Emmanuel Macron a redit ce soir la disposition de la France à offrir sa protection à la journaliste devenue en 24 heures emblème de la difficile contestation de la guerre en Russie.
Et on va continuer de suivre ça avec vous, Thomas Proutot pour RTL. Vous parliez d'Emmanuel Macron, et bien sa femme, Brigitte Macron, a rendu hommage tout à l'heure au geste de cette femme.
Solidarité, admiration totale devant le courage, devant tout ce qu'elle était capable de faire. Et vous voyez qu'une personne peut remuer des montagnes. Et elle va remuer des montagnes. Ce qu'elle a fait, c'est immense.
Voilà, Brigitte Macron au micro RTL de Clément Terra. Selon l'ONU, plus de 3 millions d'Ukrainiens ont fui les combats dans leur pays. La moitié d'entre eux sont des enfants, soit environ un enfant par seconde depuis le début de l'invasion.
Alors, malgré la censure sur les réseaux sociaux, eh bien, les autorités russes continuent leur propagande jusque dans la boîte mail des députés français.
C'est ce que révèle le patron des députés de la majorité, Christophe Castaner, dans un courrier d'une rare violence. Thomas Després, une lettre adressée à l'ambassadeur de Russie en France.
Oui, la Russie a franchi un pas de plus dans l'inhumanité. Voilà ce qu'écrit Christophe Castaner dans cette lettre envoyée cet après-midi. En cause, un document de 4 pages signé de l'ambassade de Russie à Paris, adressé aux députés. On y voit ces photos déjà tristement célèbres du bombardement de la maternité de Marioupol. 2 femmes enceintes, blessées, dont l'une d'entre elles est même sur un brancard. Mais l'ambassade de Russie prétend qu'il s'agirait d'une seule et même personne, une influenceuse, un mannequin embauché par les Ukrainiens. Bien sûr, rien ne permet de dire que c'est une mise en scène, loin de là. Et Christophe Castaner évoque même un document outrancier et mensonger.
Et oser, quand on est une ambassade, diffuser à des parlementaires ce qu'ils prétendent être un dossier de presse est insupportable. À l'ignominie du procédé se joint la souffrance de la réalité.
Le patron des députés La République En Marche qui adresse à l'ambassadeur ses salutations depuis un pays libre et fier de sa démocratie.
Les explications de Thomas Després du service politique de RTL.
Et on évoquait à l'instant le bombardement la semaine passée de cette maternité de Marioupol. L'une des chefs de service de cet établissement, de cet hôpital, sera notre invité dans quelques minutes sur RTL. Face à la hausse des prix des carburants en France, des manifestants bloquent 2 dépôts de pétrole à Brest et à Lorient.
Le prix du gasoil continue de tutoyer les sommets à cause de la guerre en Ukraine. Du gasoil indispensable à l'activité des pêcheurs et des routiers notamment, qui empêche depuis ce matin l'accès aux dépôts pétroliers de Lorient. Nicolas Bobby.
Oui, absolument. Je suis devant l'entrée de ce dépôt pétrolier bloqué par des tracteurs, des camions, des bulldozers. Parmi les professionnels en colère, Romain Boutouillet, c'est le patron du Malou Rossi, un chalutier de 10,80 m.
Nous, on consomme à peu près 600 litres jour. Quand j'ai commencé, c'était, on va dire, 35-40 centimes. Et là, c'est rendu 1,12€. Donc, l'armement est impacté, le salaire des matelots est impacté, le mien aussi d'ailleurs. Donc, c'est un peu la merde. Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui iraient bosser pour 600, voire 700 euros de moins tous les mois.
Tous les professionnels demandent à l'État que le gasoil ne dépasse pas 1,30€. Thierry Ranoux dirige les transports Coty à la Nestère, 20 camions.
Là, ça vaut même pas le coup de continuer. Là, les camions, ils roulent à perte. Quoi. On s'en sort plus. Quoi. On a eu 4 augmentations cette année. On attend un gel de la TICPE et un prix plafond du gasoil.
Les routiers dormiront sur place. Tant qu'ils ne seront pas entendus, ils resteront.
Nicolas Bobby en direct du dépôt pétrolier de Lorient pour RTL.
Allez, dans un instant dans ce journal, les nouvelles provocations de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et à 18h10, la suite de votre journal sur RTL. Salah Abdeslam, à nouveau entendu tout à l'heure devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Seul membre encore vivant des commandos du 13 novembre, il est auditionné au sujet des préparatifs de l'attentat. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Vous êtes sur place pour RTL, une audience au cours de laquelle Salah Abdeslam a multiplié les provocations.
Absolument, une évidence. D'abord, Salah Abdeslam n'aurait raté ce moment pour rien au monde. Depuis plusieurs jours, l'accusé boudait l'audience. Il avait refusé de venir, mais aujourd'hui, c'est sa journée. Alors Salah Abdeslam en profite. Il joue avec la cour, avec délectation. Le président l'interroge sur ses allers-retours à travers l'Europe en septembre et octobre 2015. 5 convois pour amener les terroristes jusqu'à Bruxelles. L'accusé en reconnaît 2. Ce sont mes frères dans l'islam. Ils fuyaient la guerre, exactement comme en Ukraine. La sale frémit de colère. Qui vous a demandé de faire ces trajets ? Demande le président. Salah Abdeslam sourit. No comment. Qui a payé ? De l'argent qui vient de quelque part. Pourquoi acheter 3 bidons d'oxygène actif utilisés pour faire du TATP ? À nouveau, Salah Abdeslam répond par de la provocation à une avocate. Vous avez accouché là ? Au président, et oh, vous m'écoutez là ? Si la France m'avait mieux traité, peut-être que j'aurais parlé. Vous avez bousillé ma vie. Cette fois, la salle explose. 130 morts, une hurle, une rescapée. Des parents l'interpellent et nos enfants sous terre. La clameur se transforme en des applaudissements de rage. Le président est obligé de suspendre. Ce soir encore, la vérité a déserté le procès.
À la cour d'assises spéciale de Paris, le récit de Cindy Hubert pour RTL.
On termine avec la colère de Jean Lassalle qui menace de retirer sa candidature à l'élection présidentielle.
Le député des Pyrénées-Atlantiques, vexé de ne pas avoir été invité hier soir sur TF1 pour la première émission qui rassemblait la plupart des candidats, hein, 8 sur 12. Jean Lassalle menace d'arrêter sa campagne, lui qui avait pourtant réussi, comme chacun des autres candidats, à rassembler les 500 parrainages nécessaires.
C'est pas jeter l'éponge, c'est que lorsqu'on ne sait plus si on sert les intérêts du pays ou si on le trahit, il s'agit de se poser les bonnes questions. Là, c'est les maires qui m'ont parrainé. Là, c'est les hommes et les femmes de ce pays qui me font confiance, qui me le témoignent tous les jours, qui me le témoignent tous les jours. Alors, l'IFOP et la SOFRES et tous les autres qui m'ont mis à 0,5 une fois pour toutes pour que je n'aille pas plus loin. Quand on arrive à ce stade de manipulation des citoyens de ce pays, moi, je veux bien qu'on continue, mais pas avec moi.
Jean Lassalle, au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire.
Dans votre journal, Alexandre, on vous retrouve un petit peu plus tard dans RTL Soir, à tout à l'heure. Le temps maintenant, Peggy, alors tout d'abord, déjà, le printemps, le vrai, c'est pour demain, c'est ça ?
Oui. Ah oui, parce qu'on a des températures extrêmement douces demain, de 11 à 23 degrés. 11 degrés à Brest, 23 à Clermont-Ferrand, 16 au Havre, 18 à Biarritz, 20 à Paris, au Mans, à Montauban, 21 à Mulhouse et Limoges. Je rappelle que la normale, c'est 13 degrés au nord et 15 au sud. Donc vous voyez bien qu'on est large au-dessus.
Et alors, qu'est-ce que c'est que ce ciel ?
Qu'est-ce que c'est que ce ciel ? Ce ciel un peu jaunâtre,
mais
orangé.
Oui, c'est jaune, orangé. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, c'est ce qu'on appelle les poussières du sable de Sahara. Sahara. C'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau. Hein. C'est un phénomène que l'on retrouve plusieurs fois par an, qui est lié au vent de sud. Et en fait, ce sont des remontées de sable du Sahara qui viennent du Maroc. Ça remonte vers par l'Espagne, ça arrive sur la France. Il y en a sur toute la France, surtout sur un grand quart sud-ouest. On a eu des particules beaucoup plus marquées aujourd'hui. Et ça va continuer demain, encore un petit peu jeudi. C'est aussi qui amène cette douceur en fait.
D'accord, donc il faudra laver la voiture en fin de semaine.
Exactement, vous avez tout compris. Et puis on a une perturbation qui arrive demain par le nord-ouest et partout ailleurs, il fera beau.
Très bien, merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et avec la brigade RTL, je vais y arriver, on va vous expliquer tout ce soir sur la quatrième dose. Parce que depuis hier, certains d'entre vous y sont éligibles. Alors qui, quoi, quand, comment, on va poser 3 questions à notre brigade. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Qui peut recevoir ce deuxième rappel de vaccin anti-Covid ?
Eh bien, toutes les personnes de plus de 80 ans et les résidents d'EHPAD, quel que soit leur âge. Ils peuvent prendre rendez-vous dès aujourd'hui auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. Sachez qu'il faut compter au moins 3 mois entre la troisième et la quatrième dose.
Agathe, une question pour tous ces plus de 80 ans. S'ils ont attrapé le Covid récemment, après la troisième dose, ils reçoivent quand même la quatrième ?
Alors là, il y a 2 cas de figure, parce que c'est jamais si simple. Si vous avez contracté le Covid moins de 3 mois après votre troisième dose, vous êtes éligible à ce nouveau rappel. Et pour savoir quand programmer l'injection, il faut compter 3 mois après le test positif. Le deuxième cas, c'est si vous avez eu le Covid plus de 3 mois après la troisième dose. Dans ce cas-là, pas de nouveau rappel pour vous. Votre infection est considérée comme une quatrième dose naturelle.
Pourquoi une quatrième dose ? C'est vraiment nécessaire ?
Eh bien, les autorités de santé Santé ont pris cette décision parce que depuis quelques semaines, on commence à voir revenir à l'hôpital des personnes très âgées qui avaient pourtant bien reçu leurs 3 doses de vaccin. Signe, selon le ministère, de la baisse d'efficacité avec le temps de la vaccination, surtout chez des patients qui ont un système immunitaire plus fragile. On commence donc les 4e doses pour ne pas prendre de risques, d'autant plus que le virus continue de circuler à un niveau élevé en ce moment.
Et est-ce qu'à terme, tout le monde aura sa 4e dose?
Eh ben, c'est possible, mais à ce stade, il n'est pas du tout prévu d'ouvrir cette 4e dose à toute la population, tout simplement parce qu'on ne sait pas si c'est utile. On manque encore de données pour savoir si la protection conférée par la 3e dose baisse aussi chez les plus jeunes après quelques mois. Donc, pour le moment, ce n'est pas d'actualité.
Donc, affaire à suivre avec la brigade RTL. Merci beaucoup à Agathe Landais. Allez, courte pause avant un témoignage bouleversant dans RTL Soir. Restez bien à l'écoute, nous avons rencontré cet après-midi midi, Olga, chef de service à la maternité bombardée de Mariupol en Ukraine. 2 mamans et 1 bébé tués la semaine passée. Olga s'est réfugiée en France chez son fils et elle nous a confié son sentiment d'impuissance. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Vous écoutez RTL Soir et tendez l'oreille maintenant parce que ce témoignage, il est très fort, il est très concret. Notre invitée maintenant est Olga Baranova. Elle est chef de service à la maternité de Mariupol en Ukraine, ville, vous le savez, assiégée, privée d'eau, privée d'électricité. La maternité a été bombardée la semaine passée. Les images ont fait le tour du monde. Bonsoir Olga. Alors vous êtes réfugiée ici en France chez votre fils, vous nous recevez d'ailleurs chez lui près de Paris. Racontez-nous déjà, vous êtes partie de Mariupol avant que la ville ne soit encerclée.
Je suis partie le 24 février, le premier jour de la guerre, parce que juste avant le début du conflit, je suis tombée gravement malade. Et mon fils a eu peur que je reste coincée, sans médicaments, sans soins. Donc des amis m'ont emmené avec eux à la frontière et il est venu me chercher.
Avant le bombardement de la maternité, vous avez continué à coordonner les équipes à distance?
Oui, je suis restée en contact avec mes équipes à Mariupol pour coordonner, mais jusqu'au 2 mars seulement. Ensuite, Internet et toute connexion ont été coupées.
Vous avez travaillé 30 ans, je crois, dans cette maternité. Comment vous avez appris le bombardement et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
D'abord, il y a eu le choc, le traumatisme. Ensuite, je suis devenue hystérique. Je pleurais en permanence. Vous savez, j'ai passé toute ma vie dans cet hôpital.
Maintenant que vous êtes en France, Olga, j'imagine qu'il y a un sentiment d'impuissance aujourd'hui.
Oui, j'ai ce sentiment parce que ma place est avec mon équipe qui est restée là-bas.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous savez à quel point la situation est terrible, vous aimeriez être là-bas, aux côtés de votre équipe?
Exactement.
Cette maternité détruite, c'est terrible parce que c'était un établissement visiblement tout neuf, rénové et très très performant.
Oui, l'hôpital a été rénové complètement il y a 4 ans. Avant, c'était un hôpital soviétique, mais il était devenu très moderne, comme les vôtres en France.
Avant le bombardement, visiblement, les équipes avaient anticipé, entre guillemets, les enfants fragiles, les salles d'opération avaient été déplacés dans des bunkers, c'est ça?
Oui, effectivement, l'hôpital s'était préparé. Tout était prêt dans ce bunker aux étages, -1 et -2.
Et comment vous vous organisiez pour déplacer les malades, assurer les soins? On imagine que ce n'est pas forcément des conditions idéales pour accueillir les patients.
C'est vrai, car c'est un bunker soviétique, en fait, qui date de l'URSS et jamais rénové depuis, avec beaucoup d'humidité. Il faisait froid, il manquait d'électricité. Or, nous avons besoin d'électricité pour les équipements. Nous y rajoutions des chauffages. Mais bon, ce bunker était surtout utilisé pour les opérations, toutes les urgences. Mon service, la maternité, en était assez éloigné. Donc nous ne pouvions pas déplacer tous nos patients.
J'imagine que depuis que vous avez appris le bombardement, vous pensez à vos équipes, vous pensez aux patients que vous avez laissés là-bas. Et ça doit être d'autant plus difficile que c'est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir des nouvelles de Mariupol.
Oui, je n'arrive pas à avoir de nouvelles. C'est d'autant plus terrible qu'il y avait en fait deux départements de maternité côte à côte lors du bombardement. En fait, au début de la guerre, une autre maternité, en périphérie de la ville, s'est retrouvée sans chauffage, sans eau. Et donc, ils avaient déplacé leurs équipements, leurs patients chez nous, dans notre bâtiment, celui qui a été visé.
Vous avez laissé votre vie derrière vous à Mariupol. C'est très difficile d'avoir des nouvelles de votre équipe, mais j'imagine que c'est aussi très difficile d'avoir des nouvelles de votre famille, de vos amis. Je crois que vous avez une sœur encore à Mariupol.
Je n'ai plus aucune nouvelle depuis le 2 mars. Je ne sais pas où se trouve ma sœur. Je ne sais pas où se trouvent mes amis. C'est une peine terrible d'être là, avec du réseau pourtant, mais sans pouvoir être connecté à mes proches.
Ça veut dire qu'on en est réduit à regarder la moindre vidéo de Mariupol qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour essayer d'apparaître un signe, un visage qu'on connaît.
Oui, c'est ça. J'essaie de chercher des infos partout. De regarder si je reconnais un visage, de trouver un morceau d'info qui pourrait me mettre sur la piste de ma famille, de mes amis.
Quand on a un métier comme le vôtre, où le principe c'est d'aider les gens, un métier plein de bienveillance, est-ce qu'on est capable d'avoir de la colère, de la haine aujourd'hui ?
La pédiatrie, c'est le métier le plus bienveillant du monde jusqu'à aujourd'hui. Dans toute ma vie, je n'avais jamais ressenti de haine. Mais aujourd'hui, je ressens toute la haine du monde. Je les déteste.
Votre espoir, c'est peut-être les premières voitures qui ont pu sortir de Mariupol hier et aujourd'hui, les premières voitures qui ont pu franchir enfin un corridor humanitaire. Alors certes, c'était une centaine de voitures hier, 2000 aujourd'hui. C'est rien sur 400 000 habitants, mais c'est peut-être le début d'un mince espoir.
Je suis ravie que certains aient pu quitter cet enfer, parce que c'est un enfer ce que je peux voir aujourd'hui de ma ville sur Internet.
Merci Olga Baranova, vous la chef de service de cette maternité de Mariupol en Ukraine bombardée la semaine passée, vous qui êtes réfugiée ici en France, d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL. Merci.
Merci
pour votre intérêt, mais il faut que vos leaders européens et américains entendent une chose, il faut absolument fermer le ciel ukrainien, c'est notre seule demande.
Merci Olga Baranova d'avoir été notre invitée ce soir sur RTL.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Allez, une toute petite pause et puis RTL Soir va revenir ensuite dans quelques secondes avec tout autre chose. D'abord, il y aura vos dessous de l'actu, les dessous de la longévité d'un certain Karim Benzema, devenu hier soir meilleur buteur de l'histoire du foot français. Et puis, laissez-vous tenter dernière avec du grand cinéma Notre-Dame brûle en salle demain. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
Il est quasiment 18h30.
Julien Cellier.
RTL Soir.
RTL Soir à vos côtés, RTL Soir pour vous informer. Alexandre de Saint-Aignan vous rappelle les grands titres de l'actualité.
Elle avait fait irruption en plein journal télévisé russe pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine. La journaliste interpellée a été condamnée à une amende d'environ 250 euros, puis libérée, mais elle pourrait faire l'objet d'autres poursuites passibles de prison. Dans une demi-heure à Kiev, début d'un couvre-feu qui doit durer jusqu'à jeudi matin, la capitale ukrainienne vit un moment dangereux et difficile. Selon son maire, plusieurs immeubles ont à nouveau été bombardés aujourd'hui. Ce sera la première visite de Joe Biden en Europe depuis le début de la guerre en Ukraine. Le président américain participera la semaine prochaine à un sommet extraordinaire de l'OTAN. Et puis Karim Benzema, jugé en appel avant la Coupe du Monde au Qatar, condamné en novembre dernier dans l'affaire du chantage à la sextape, l'attaquant des Bleus est appelé à comparaître en juin devant la cour d'appel de Versailles.
Merci Alexandre. Le temps pour demain, Peggy, c'est le printemps, ça y est.
Exactement, avec 20 degrés quasiment partout, en tout cas, on s'y rapproche, on s'en approche. 20 degrés à Reims, 20 à Paris, à Nancy, à Bordeaux, jusqu'à 23 même à Grenoble. Le temps sera nuageux au nord de la Loire le matin avec l'arrivée d'une perturbation pluvieuse par la Bretagne, toujours couvert avec quelques gouttes sur le Languedoc-Roussillon toute la journée. Et puis ailleurs, il fera beau et le soleil gagnera l'Île-de-France et le nord-est dans l'après-midi.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir, on va parler de Karim Benzema. Alexandre vient d'évoquer à l'instant son actualité judiciaire, mais c'est surtout l'actualité sportive de Karim Benzema qui est à la une ce soir parce qu'il est devenu le meilleur buteur français de l'histoire. 413 buts dans sa carrière. Alors avec Lyon tout d'abord, puis avec le Real Madrid et avec l'équipe de France, il dépasse donc Thierry Henry. Bonsoir Nicolas Jean.
Bonsoir.
On va s'intéresser au-dessous de ce record. On va essayer de comprendre aussi pourquoi Benzema continue de marcher sur l'eau. Parce qu'il a 34 ans quand même. Et pourtant, il n'a jamais semblé aussi fort.
Oui, à 34 ans, Benzema, c'est simple, c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat espagnol cette saison. 22 buts, 11 passes. Et c'est sa 13e année dans l'un des clubs les plus exigeants. Et il force l'admiration de Bernard Lacombe, soutien de toujours, ancien joueur, ancien dirigeant de l'Olympique Lyonnais, là où Benzema a débuté. Il l'a rencontré quand il avait 16 ans. Il a échangé ce matin avec lui et l'a félicité pour le record.
Je lui ai envoyé un petit truc et puis il m'a dit « Je te remercie Bernard ». Voilà. Quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, c'est presque irréel. Il va me rappeler parce qu'il va venir sur Lyon là prochainement. Et j'espère que je serai pas en déplacement, que je serai sur Lyon et puis qu'on partagera un bon moment ensemble.
Un Benzema épanoui, rayonnant, un quotidien rythmé par un travail sérieux, beaucoup en témoignent. Fini depuis 4 ans, notamment les débats sur son poids, affûté comme jamais et son jeu aussi n'a jamais été aussi complet.
Nicolas, vous étiez à Madrid la semaine dernière pour le match face au PSG où, pour ceux qui ont les mémoires courtes, Benzema a inscrit un triplé et a éliminé Paris à lui tout seul. C'est vraiment le patron, c'est vraiment le boss au Real.
Mais il suffit de voir son attitude, le calme notamment qu'il diffuse auprès de ses coéquipiers depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, il prend toute la lumière. Il assume aussi surtout toutes les responsabilités, la pression des résultats, le capitana. On parle d'un joueur qui a remporté 20 trophées avec le Real, dont 4 Ligues des Champions. Et il vient de dépasser Alfredo Di Stefano, une icône à Madrid, comme 3e meilleur buteur de l'histoire du club merengue.
Quand j'étais gamin, j'avais des gens qui avaient la télé chez eux. Et puis j'allais toujours voir le grand Real Madrid, de Rento, Puskas, Di Stefano, et qui étaient des monstres. Quand je vois que Karim aujourd'hui a dépassé ce monsieur, ce grand monsieur qui était Di Stefano, c'est une grande, grande fierté pour ce gamin.
Une vie assez calme dans sa villa, une trentaine de kilomètres au nord de Madrid, près d'une forêt et d'un ancien circuit de Formule 1 où il profite de sa passion pour les voitures de sport. Et c'est d'ailleurs lui au volant de plusieurs gros cylindrés, vous le verrez bientôt, qui fêtera les 35 ans du magazine Turbo sur M6 à la fin du mois.
Ah, vous êtes bien informé, vous. Et puis il y a ce retour, donc l'an passé en équipe de France, là aussi avec un rôle capital. C'est vraiment un retour qui lui a fait du bien. Hein.
Oui, c'est un apport indéniable. Depuis son retour, Benzema en bleu, c'est 13 matchs, 9 buts, 2 passes. Il est là comme s'il n'y avait jamais eu les 5 ans et demi d'absence avec l'affaire de la sextape. Alors il n'en a pas fini avec les déboires judiciaires puisqu'on vient d'en parler. Procès en appel 30 juin, 1er juillet dans ce dossier, 5 mois avant la Coupe du Monde. Et on rappelle, il avait écopé d'un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende en première instance.
Les dessous de la longévité de Karim Benzema, désormais meilleur buteur de l'histoire du foot français. Merci beaucoup Nicolas.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
RTL 18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant. Les bons conseils, vous le savez, chaque soir de notre service culture de la bande de LVT pour programmer vos soirées de la semaine. On va parler cinéma aujourd'hui et même grand cinéma. Bonsoir Stéphane Woodsock.
Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde.
Notre-Dame brûle, le nouveau film de Jean-Jacques Hano sort demain au cinéma avec RTL. Le réalisateur de L'Ours, du Nom de la Rose ou de La Guerre du Feu nous plonge dans les coulisses de l'incendie de la cathédrale parisienne. C'était il y a presque 3 ans.
Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'il le fait à la manière d'un polar. On sait en fait qui est le coupable, c'est le feu. On sait que la victime a survécu, mais pendant 1h44, eh bien, on tremble quand même. Jean-Jacques Hano signe le récit vrai d'une catastrophe incroyable. Vous parliez de spectacle, Julien. Les scènes qui recréent la furie du feu sont tout simplement dantesques.
Et vous avez eu la chance de suivre ce tournage semaine après semaine pour RTL. Stéphane, il faut souligner que le réalisateur a eu les moyens de reconstruire en studio des ponts entiers de Notre-Dame.
Bah en fait, il a fait ce qu'il adore faire, construire pour mieux détruire. À Brie-sur-Marne ou à la Cité du cinéma de Saint-Denis, de gigantesques plateaux ont accueilli son tournage hors norme. En janvier 2021, juste avant de démarrer, il m'avait expliqué comment il allait tourner la séquence où la flèche, puis la voûte, s'écroule dans la nef.
Le tas de gravats, bien entendu, je ne peux pas le faire dans une cathédrale, donc je le fais reconstituer un morceau de cathédrale, tout le sol et des colonnes, prévoir les nacelles qui vont déverser de 30 mètres de haut ces gravats en feu. Je vais mettre une caméra en dessous, par exemple, qui va être recouverte par les gravats. C'est très cinématographique, c'est invraisemblable. J'aurais pas osé imaginer toutes ces choses-là. C'est tellement tragique. Les pompiers que j'interviewe, tous me disent c'était monstrueux et en même temps, c'était comme un opéra. Oui, comme un spectacle inouï, impressionnant, fascinant, terrifiant.
Les sapeurs-pompiers de Paris qui sont évidemment les héros de Notre-Dame brûle, le nouveau film spectaculaire mais aussi haletant, émouvant de Jean-Jacques Haneau. Ça sort donc demain au cinéma avec RTL.
Et je précise Stéphane que vous publiez avec Jean-Jacques Haneau Notre-Dame brûle, le carnet de bord de ce tournage épique. Épique c'est le mot, carnet de bord c'est le terme aussi parce qu'on suit quasiment jour après jour la construction, l'aventure de ce film, c'est assez incroyable.
Depuis le tout début, avec des images, des documents, des morceaux de storyboard, des photos vraiment exclusives
photos
de Jean-Jacques Haneau et de son équipe.
De l'intérieur de la cathédrale.
Et des décors en feu, évidemment, pendant cette aventure de cinéma unique qui a duré 2 ans.
C'est absolument fascinant, c'est aux éditions, comment on dit ?
Grund !
Grund, très bien, vous le dites tellement bien. Merci beaucoup
Merci
Stéphane
à vous.
Mitzok.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, RTL Soir revient dans moins d'une minute. Ensuite, on va défaire le monde avec Cyprien Sini, oui. Laurent Tessier, Céline Landreau qui nous ont rejoints en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Alors vous, vous nous écoutez peut-être les auditeurs en voiture. On va parler carburant, justement. Cet or noir, comment arrive-t-il jusqu'à votre réservoir? Et en France, est-ce qu'on a juste des idées ou est-ce qu'on a aussi un petit peu de pétrole? Eh bien, réponse juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.